Bonsoir mes frères et sœurs. Alors ce qu'on vient de chanter, ça nous engage là. Montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est vrai ça? Montre-moi. Eh bien, je crois que le Seigneur va nous le montrer. On va partir d'un texte sur lequel j'ai déjà partagé plusieurs aspects sur la prière. C'est dans le psaume 78, un texte qui fait froid dans le dos. Dans le psaume 78, il y a un reproche qui est fait, un reproche terrible qui est fait à Israël par rapport au combat. Car si nous vivons dans le repos, car un vrai chrétien vit dans le repos, d'un autre, il sait, le vrai chrétien, qu'il y a aussi un combat à mener. Dans le psaume 78, on va lire à partir du verset 5, s'il vous plaît. Psaume 78, je vous donne ce texte, je vais vous en donner 5 ou 6 pour vous donner une idée d'une pensée que vous pourrez vous-même méditer. Psaume 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il l'a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. On voit que la volonté de Dieu, c'est que nos enfants connaissent la bénédiction de Dieu. Vous en êtes d'accord? Ben oui. Afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. C'est un mot qui revient souvent, ça, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, donc qui représentent le peuple d'Israël, armés et tirant de l'arc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné le dos le jour du combat. C'est terrible. Être armé, avoir toutes les armes, parce que Dieu, pour qu'on combatte, évidemment, ne peut nous avoir donné que toutes les armes, sinon la vie, le repos serait impossible à penser. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné le dos. Surtout qu'il y a un combat. Éphésiens chapitre 6, vous connaissez bien ce texte, on l'utilise très 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 souvent dans nos réunions. Éphésiens chapitre 6, ce texte au début nous parle du repos, et à la fin il nous parle d'un combat. Éphésiens chapitre 6, verset 10, vous connaissez combien le Seigneur nous a donné toutes les armes. C'est à nous de les revêtir et à nous de les utiliser. Et si bien des chrétiens ne vont pas bien, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les armes, c'est qu'ils ne les utilisent pas. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous en quoi? Dans le Seigneur. Si vous êtes fort, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas autrement. Dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc, il y a un combat. Nous n'avons pas à lutter contre certaines choses, mais nous avons à lutter contre d'autres. Vous le comprenez, ça? Nous avons à lutter. Et il ne faut pas oublier, vous avez vu ce qui s'est passé dans la tribu d'Éphraïm, ils ont oublié certaines choses, et bien ils n'en ont pas combattu le bon combat. Nous pourrions aller un peu en avant. Des textes, là on n'a que l'embarras du choix, vous savez quand on parle du combat. Alors, dans les Actes, chapitre 3, il y a des moments comme ça, il faut prendre conscience. On vient de chanter quelque chose quand même, moi je trouve que c'est bien. Montre-nous quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Dans Actes chapitre 3, c'est très bien expliqué. Au verset 1er, rien que le verset 1er nous suffit. Regardez, Actes 3, verset 1er. Pierre et Jean, deux personnes complètement opposées. Quand vous regardez le caractère de Jean et le caractère de Pierre, ce n'étaient pas des gars qui, sans le baptême du Saint-Esprit, auraient pu s'entendre. Ce qui nous prouve que même si on n'est pas, si on n'a pas le même caractère, ce n'est pas grave. On peut être ensemble. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était quoi? À l'heure de la prière. C'était 3h de l'après-midi. À l'heure de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un temps pour prier. Il y a une heure où on doit prier. Il y a un moment où il faut savoir prier. Regardez dans Matthieu 26. Je vous donne ces textes pour vous donner une introduction simple d'un sujet sérieux. Matthieu 26, 40. Jésus est en train de combattre un combat très très lourd, puisqu'il va, il a failli mourir dans le jardin de Gethsémané. Il avait besoin de frères et de ses frères, de ses amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 26, 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. C'est terrible, hein? Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ?» Le Seigneur ne leur demandait pas 10 heures, alors que ça aurait été peut-être utile dans ce cas-là. Une heure, ils ne l'ont pas fait. Alors, 2 Timothée chapitre 4. On pourrait passer la soirée, pour les gens qui sont familiarisés avec la parole, sans explication à la limite. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Oui, il y a le repos. Vous croyez au repos de Dieu? Le repos de la foi, vous y croyez? Si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas combattre. Si vous n'êtes pas dans le repos, cette prédication ne vous aidera pas beaucoup. Mais si vous êtes dans le repos, laissez-moi vous dire que cette prédication va beaucoup vous aider. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce que Paul dit? Moi, c'est un verset qui m'a beaucoup interpellé. J'ai mis des années à le comprendre. J'ai combattu le bon combat. C'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Le combat, il doit être bon. S'il n'est pas bon, il est mauvais. Ouais, d'accord? Ah ouais, moi j'ai fait des études poussées. Le combat, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon du tout. Et peut-être que ce soir, c'est une réponse que Dieu va vous montrer. Un combat, il doit être bon. Il ne peut être bon que si on est fortifié et si on est armé. Bien sûr qu'un soldat qui n'est pas armé combattra un mauvais combat. C'est pour ça que j'ai parlé en même temps du repos. Alors, il y a d'autres textes. On en verra un à la fin pour conclure, parce que c'est important. Donc, il y a des instructions qui nous permettent d'entrer dans le repos, qui nous permettent de faire la volonté de Dieu. Vous voyez ce qu'on vient de chanter? Peut-être que vous le chantez depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à le vivre. Pourquoi je n'arrive pas à faire la volonté de Dieu? C'est une question qu'on peut poser, ça. Il y a des chrétiens, ça fait 5 ans qu'ils sont convertis, ils se débattent avec leur propre force, ils combattent un mauvais combat, ils ne sont jamais rentrés dans le repos, donc ça fait qu'ils sont toujours épuisés, etc., etc. Donc, il y a des instructions à recevoir. Pourquoi certains chrétiens ne font pas la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que certains sont charnels. Si on est charnel, on est tout le temps en porte-à-faux avec la spiritualité, ça aussi c'est évident. Il y en a qui ont accepté Jésus que comme sauveur. Ils sont sauvés. Ils aiment Dieu, mais comme ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur, cette prière qu'on a chantée, si bien chantée, ne correspond pas à grand-chose. Seigneur, apprends-moi à ta volonté, car je veux t'obéir. C'est vrai sans l'être. En vérité, il y a une ambiguïté. Certains pensent être dans la volonté de Dieu parce qu'ils vont à l'église le dimanche. Il y a des gens, ils sont convaincus qu'ils sont dans la volonté de Dieu parce qu'ils vont à l'église le dimanche. Donc, ils prennent la Sainte-Seine, donc je suis dans la volonté de Dieu. Alors, il y a un combat, et ce combat, Dieu veut qu'on le mène. D'accord? Est-ce que nous voulons mener ce bon combat? Ou est-ce que nous allons faire partie de ces chrétiens apostats qui vont abandonner la foi? C'est écrit ça, que dans les derniers jours, il y en a beaucoup qui abandonneront la foi? Eh oui, c'est écrit. Voilà. Pourquoi on abandonne la foi? Pourquoi les gens abandonnent l'Église? Pourquoi les gens abandonnent le culte? Pourquoi les gens abandonnent la parole de Dieu? Etc. Vous avez vu la tribu d'Éphraïm, armée et tirant de l'arc, des gens capables, ils ont tourné le dos le jour du combat. Et ça, mes frères et sœurs, c'est ce qui parle. On est à toutes les églises, on est armés et personne ne pourra dire à Dieu un jour, « Seigneur, tu vois, moi j'aurais aimé combattre, mais je n'avais pas les armes. » Le Seigneur va dire, « Tu n'avais pas les armes ?» Est-ce que nous avons les armes, oui ou non? Est-ce que vous imaginez notre Dieu, notre Père, nous demandant d'aller combattre un combat sans armes? Si on est désarmé, en un seul mot, c'est qu'il y a un problème. Un problème, nous n'avons pas compris ce que nous allons partager ce soir. Comment est-ce possible d'être dans la victoire? Vous croyez à la victoire? Oui, il y a des chrétiens dans toutes les églises qui y croient. À celui qui vaincra, dit le Seigneur Jésus, dans toutes les églises de l'Apocalypse. Alors, il faut commencer avec quelque chose de simple. Vous rappelez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Comment l'ennemi s'y est pris? Vous rappelez avec une simple phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Ça suffit. Il n'y a pas eu un discours de 3 mois. Une parole, une question. Dieu a-t-il réellement dit. Et le doute a pris le dessus. Et l'homme a préféré, vous pouvez me dire, oui, mais c'est délicat ce que vous allez dire. Non. L'homme a préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. Calculez-le comme vous le voulez, ce que je vous dis, je l'ai réfléchi. Il a préféré la parole de Satan. Alors, la question qu'il faut qu'on se pose ce soir, par rapport à ce qu'on chante, par rapport à ce qu'on partage, la question qu'il faut qu'on se pose maintenant est celle-ci. Qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous? À qui obéissons-nous? C'est une question qu'il faut absolument se poser. Vous connaissez Luc, chapitre 8, versets 1 à 8? On pourrait y aller quand même. Parce que quand même, c'est important. Mais à qui j'obéis? À qui j'obéis? Est-ce que j'obéis à Dieu ou pas? Dans Luc, au chapitre 18. Luc 18, vous connaissez cette parabole? Le Seigneur l'a utilisée. Mes frères et sœurs, quand on lit une parabole comme ça, on doit savoir où on en est au niveau de la foi. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut... Alors, qu'il faut toujours prier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toujours prier? Est-ce que ça veut dire 24 heures sur 24? Mais non. Ça veut dire qu'il faut toujours prier. Si j'ai un sujet, si ma fille est inconvertie, je prierai toujours pour son âme. C'est ça que ça veut dire. Je ne m'arrêterai pas. Tous les jours, je prierai pour ma fille. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer 24 heures sur 24 à genoux. Il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique et Dieu. » Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, c'est signé Jésus-Christ. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette femme, cette pauvre femme qui n'a rien, elle représente les chrétiens qui ont, même s'ils n'ont rien, ils ont le droit avec eux. Elle avait le droit pour elle. Donc elle avait le droit de réclamer ce dont elle avait besoin. Pour nous, le droit, c'est est-ce que Dieu le veut? Est-ce que Dieu veut sauver mon enfant? Est-ce que c'est sa volonté? Oui. Donc, quand Dieu veut quelque chose, vous pouvez le réclamer. Mais il faut le réclamer, bien sûr, avec foi. Il faut garder cette foi, une foi vivante. Une église, c'est quoi? C'est des chrétiens qui se rassemblent? Non, une église, l'église du Seigneur, bien sûr qu'il y a plein de chrétiens qui se rassemblent. Mais l'église, la véritable église, ce sont des gens qui veillent en sorte d'avoir une vraie foi, une foi vivante. Ma foi, ta foi est-elle vivante? Quand Jésus viendra, trouvera-t-il une église qui fasse reculer les ténèbres? Est-ce qu'il y en a des ténèbres? Est-ce qu'il y en a de l'opposition? Mais oui, il y en a. Et voilà l'église que Dieu demande. Quand Jésus dit, trouvera-t-il des... il ne dit pas, trouvera-t-il des chrétiens dans les églises? Est-ce qu'il trouvera des chrétiens qui se promènent avec la Bible sous le bras? Il dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi dans les cœurs? Est-ce qu'il trouvera cette foi qui fait mouvoir le bras de Dieu? Cette foi qui fait reculer les ténèbres? Cette foi qui chasse les démons? Cette foi qui saisit la victoire ou la guérison? Etc. Est-ce que vous croyez vraiment à la prière? Est-ce que vous croyez que Dieu exauce la prière? Est-ce que Dieu répond aux prières? Elles sont bien mes questions? Alors, comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui ne prient pas? On croit à la prière? On croit que Dieu exauce la prière? On croit que Dieu est puissant pour faire mouvoir son bras lorsqu'on prie? Et il y a des chrétiens qui vous disent, mais moi je ne prie presque pas. Vous trouvez ça comment? Bizarre. Soyons honnêtes, il faut être honnête, on n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil. On est là pour dire, tiens, non, mais je crois dans la prière, je crois dans la toute-puissance de Dieu, je crois que l'Éternel est l'Éternel désarmé, là, en deux mots, pas bien sûr, pas un, le Seigneur qui combat, et comment ça se fait que je prie si peu? Comment ça se fait que je sois si timide? Comment ça se fait que je sois toujours en train de douter? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Je dis, Monsieur Gou, est-ce que Dieu m'entend quand je prie? Mais écoutez-moi bien une chose. S'il y a une chose qui n'est pas permise dans la prière, c'est le doute. La Bible est catégorique. Dans Jacques chapitre 1er, il est dit que celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Celui qui doute est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques chapitre 1, verset 5 par là. Vous entendez, le doute n'est pas permis. Le doute, vous avez vu quand c'est venu dans le cœur de Ève, ce que ça a fait ? Une parole a suffi à la déstabiliser et à lui faire choisir la parole de Satan. C'est impressionnant. Nos prières doivent être des prières de foi, pas des prières... La foi, ça ne veut pas, c'est pas le cri, l'excitation. La foi, c'est comme cette veuve, j'ai le droit pour moi et je persévérerai jusqu'à ce que j'ai gain de cause. Seigneur, tu veux sauver des gens dans cette ville de Toulouse, tu vas bientôt revenir, je persévérerai, tu vas sauver des hommes et des femmes, Seigneur. Si on commence à dire, oui, mais est-ce que... Alors par contre, on va prier pour des choses qui n'ont aucun sens. Quand les gens en paix, vous voyez pour qui est la paix en Israël, je vais vous dire, que les chrétiens soient en paix, oui, mais que la paix, il n'y aura pas de paix en Israël. Tant que Jésus ne reviendra pas régner sur la terre. Trouvera-t-il la foi ? Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens ? Eh bien moi, je ne sais pas quoi demander. À quoi ça sert de prier ? Qu'est-ce qu'il faut demander ? Là, je trouve que ça fait chaud quand même. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tiré par les cheveux, là ? Je ne sais pas quoi demander au Seigneur. Or, quand j'ai un problème, je prie, mais après, je ne vois pas ce qu'il faut demander au Seigneur. Écoutez, moi, je ne veux pas... Mais là, il y a plus que de la désobéissance, il y a un aveuglement terrible. Là. Quand on ne voit pas, pourquoi prier ? Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Ma maison sera une maison de prière », qui c'est qui l'a guéri dans le temple ? Des aveugles. Eh bien, c'est bien. Parce que je peux vous dire que dans le temple du Seigneur, il y en a des aveugles qui ont besoin de comprendre sur l'importance de la prière. Et si on prenait le temps de recenser tous les versets qui parlent de la prière, laissez-moi vous dire qu'on serait époustouflé de voir la quantité de fois où Dieu nous enseigne sur ce qu'est véritablement la prière. L'Église doit prier. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Vous l'avez chanté comment ? Sérieusement ? « Montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. » Vous l'avez chanté ? Vous étiez là quand on a chanté le cœur ? Bon, vous l'avez chanté ? C'est allumé là, le truc ? Sérieusement, parce que on prie, quand on prie, en plus quand on prie, quand on chante des prières. Hein ? Les yeux de long, il faut aller plus vite. Hein. Sérieusement, montez un peu. Est-ce que c'est vrai ça ? Parce qu'il faut... Dieu regarde au cœur. « Montre-moi... » Stop.
Pardon, excusez-moi.
Non, c'est une fois, pardon. Montez. Le refrain. Encore. Stop. Parle-moi. Montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Le Seigneur te dit ce soir, au travers de mon ministère, l'Église doit prier. Amen. Il y a l'heure de la prière. Il y a un temps pour tout, mais il y a un temps pour prier. N'avez-vous pas pu veiller une heure ? Combat, le bon combat de la foi. Moi, je trouve que c'est merveilleux que Paul n'ait pas dit « J'ai combattu le combat de la foi, j'ai combattu le bon combat de la foi. » Mes frères et sœurs, s'il est mauvais, c'est sûr que ça ne va pas vous encourager. Si on vit en même temps dans le péché, qu'est-ce qu'il dit la Bible ? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est clair, il y a peut-être un truc à régler là. Dire, Seigneur, écoute, je veux écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mon frère, ma sœur, il ne faut pas tourner le dos le jour du combat. Il y a un combat. Jésus va bientôt revenir. Il y a une heure pour prier. C'est peut-être là. Dieu, dans la semaine, nous demande de prier. Peut-être que le Seigneur va te montrer, tiens, tu as 5 minutes. Est-ce que ça arrive des fois qu'on ait 5 minutes de libre ? Soyons, je veux dire, je ne suis pas... Vous ne pourrez pas me dire que je suis dans le légalisme. Est-ce qu'on peut avoir des fois 5 minutes de libre ? Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes pour... Tiens, mais ces 5 minutes-là, je les bloque pour me retirer dans ma chambre et pour prier. Est-ce qu'on peut le faire, ça ? Mais commençons comme ça. Soyons simples, soyons intelligents. Je ne tournerai pas le dos le jour du combat. Parce que mes frères et sœurs, le bon combat, il est bon parce que le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour le combattre. Et si ce soir il y a quelqu'un qui est là en train de se démener, dépêtrer, je ne sais pas, c'est parce que vous n'êtes pas armé. Mais si vous êtes armés, le combat sera bon. Et Dieu veut que nous participions au salut des âmes. Il aurait pu faire tout seul. Vous croyez que Dieu, s'il avait voulu, ou s'il voulait, si Dieu, de son ciel de gloire, disait, voilà, le 28 juin à 9h15, je veux que tous les habitants de la terre se convertissent en 30 secondes. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, en 30 secondes, les 7 milliards 200 millions d'habitants se convertiraient. Oui ou non? Mais il ne le fera pas, parce qu'il nous laisse libre. Mais cette liberté, qui est extraordinaire, passe par quand même par l'intercession de l'Église. L'Église, elle doit combattre. Il y a vraiment un combat à mener. Est-ce que vous voulez le mener, ce combat? Est-ce que vous voulez dire, Seigneur, mais délivre-moi de ma timidité, délivre-moi de ma paresse? Alors, je ne parle pas forcément du combat collectif dans l'Église, mais chez soi, est-ce qu'on ne peut pas combattre le bon combat? Franchement, quand quelque chose nous plaît, c'est incroyable. Comment on n'est pas capable, même des fois, de rester devant jusqu'à minuit, jusqu'à une heure devant son ordinateur pour chatter avec les amis de Facebook. Pourquoi on est capable, alors qu'on est fatigué, de rester une heure sur son ordi? Mais répondez-moi. Il y a des textes comme ça. Regardez dans l'Exode, chapitre 17. Il y a des textes que Dieu a voulu pour que nous comprenions quelque chose. Ils sont là, c'est sérieux. Exode 17. Vous connaissez ces textes, certainement que vous les avez déjà lus et que ça même ça vous a interpellé. Ce texte, il est là pour nous rappeler qu'il y a toujours des combats. C'était dans le désert, ça fait rien, le combat. Des combats, il y en a partout. Que vous soyez dans le désert ou que vous soyez dans les verts pâturages, il y a toujours des combats. Exode 17, verset 8. Et Amalek, je peux vous dire que c'est vraiment l'image du diable. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Regardez bien quand même cette histoire, c'est un truc de fou. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Dans la version Chouraki, si je ne me trompe pas, il est dit « ses mains restèrent froides jusqu'au coucher du soleil ». Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans un livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de génération contre Amalek, de génération en génération. » Il y a un combat. Ce combat, il existe toujours. C'est écrit. Il y aura un combat de génération en génération. Amalek, c'est vraiment l'ennemi de Dieu. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a choisi de lever la main contre l'Éternel. Moi, je peux vous dire, je les plains. Je les plains, les gens qui lèvent la main contre Dieu. Je les plains. Les gens qui lèvent le poing contre Dieu, qui travaillent contre Dieu, je les plains vraiment. Il vaut mieux travailler avec lui, croyez-moi. Et ce soir, nous sommes là pour apprendre à mieux travailler avec notre Seigneur, à mieux comprendre le caractère de notre Dieu. C'est la première fois où on voit Dieu, Moïse, attribuer le nom du Seigneur, l'Éternel, ma bannière. Il combat pour moi. Et les mains levées, ce n'est pas physique. Il y a des gens dans les églises. Moi, j'ai été dans une église une fois. Levez les mains, vous aurez la victoire. Et là, tout le monde, ils se regardaient. C'est là, les gens, ils levaient la main gauche. Ils se levaient. Levez les mains, vous aurez la victoire. C'est là, ils levaient les mains. C'est pas ça. C'est une position d'obéissance. C'est pas une question de lever les mains. C'est une question de dire, mon cœur est tourné vers toi. Mes yeux sont tournés vers toi. Je sais que tu es assis sur le trône et que tu combats pour moi. J'obéis. Qu'est-ce qu'il faisait Moïse? Il obéissait. Alors, Seigneur, j'obéis. C'est ça. Quand vous obéissez, c'est comme si vos mains étaient levées. Quand vous obéissez et que vous dites à des frères, aidez-moi, à Moïse, tout Moïse que c'était, eh bien, il a eu besoin de Aaron et de Hur. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à des frères, priez pour moi? Est-ce que vous le demandez des fois? Oh non, moi, j'ose pas me demander qu'on prie pour moi. Ah ouais? Mes frères et sœurs, si on avait vraiment compris l'importance de la communion fraternelle. Des fois, on dit, mais je souffre de la communion fraternelle, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de prier pour vous? C'est quoi? C'est de l'humilité ou de l'orgueil? Et ça vaut la peine d'en parler quand même. Non, je ne veux pas déranger les gens. C'est de l'humilité, de la bêtise ou de l'orgueil? En tous les cas, je peux vous dire que ce n'est pas de l'humilité. Parce que l'humilité, ça nous pousse à obéir, croyez-moi. Priez pour moi, priez les uns pour les autres. Oh non, moi je prie chez moi tout seul. Mais ça, c'est la bêtise, ça. Est-ce que c'est écrit, prie tout seul chez toi? Hein? Priez chacun pour soi. C'est comme ça que c'est écrit. Mais vous voyez, ça c'est d'orgueil. Priez les uns pour les autres. Prie pour moi. Prie que mes yeux soient toujours fixés sur le Seigneur. Le combat, il existe. Et croyez-moi que le diable, il sait ce qu'il faut faire pour faire chuter l'Église. Vous croyez que le diable, il sait ce qu'il faut? Il sait ce qu'il faut. Et si l'Église est apostate, c'est parce que, croyez-moi, le diable a bien gagné. Ça vous étonne peut-être ce que je vous dis? Mais je peux vous dire que le diable a souvent gagné dans les églises. C'est pas facile de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Ouais. Quand vous voyez comment sera l'Église de la fin des temps, c'est écrit comment sera l'Église à la fin des temps, on peut quand même se poser des questions. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, quand il est dit que les chrétiens seront irreligieux, qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Vous connaissez tous les textes? Vous les connaissez ces textes? Je vous les ai souvent lus, vous les connaissez. Ouais. Dans l'Église où il n'y aura plus de foi, si Jésus pose la question, c'est parce qu'il sait, bon, il sait la réponse. Mais en fait, il nous la pose parce qu'il faut que nous répondions. Trouvera-t-il la foi? Ce soir, Jésus trouve-t-il la foi dans mon cœur? Dans cette assemblée à Sainte-Agne, Jésus trouve-t-il la foi? Est-ce qu'il y aura ce combat, cette ferveur? Est-ce que je prendrai les armes ou est-ce que je tournerai le dos le jour du combat alors que j'ai toutes les armes? Les chrétiens qui s'imaginent, comme je disais tout à l'heure, pouvoir dire à Dieu, oui, si tu m'avais donné davantage d'armes, j'aurais pu combattre, laissez-moi vous dire que ça ne se passera pas bien. Parce que les armes, on les a. Jamais, si vous connaissez Dieu, jamais Dieu pourrait nous demander de combattre sans nous donner les armes qu'il faut. On a toutes les armes pour vaincre. On a toutes les armes pour gagner. Si Paul disait « je suis plus que vainqueur », c'est parce qu'on a toutes les armes. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? Mais mettons bien nous ça dans la tête et surtout dans le cœur. Si Dieu nous dit qu'il y a un bon combat, il ne le sera bon que dans sur cette base-là. Je suis armé, j'ai tout ce qu'il faut pour vaincre. Et ça devrait vous fortifier ce soir. Ça devrait vous encourager. Vous avez toutes les armes. Vous le croyez, ça? Vous croyez que vous allez dire au Seigneur, « Seigneur, tu vois, je voulais combattre, mais moi, je n'avais pas d'armes. Tu ne m'as pas armé. » La réponse, ça sera pas à votre gloire, je vous le dis. Dans les églises, dans l'Église du Seigneur, on doit être armé. Et pour être armé, il faut entendre certaines choses. Il faut entendre des prédications sur la repentance. Vous avez écouté les témoignages le dimanche après-midi? Comment ils étaient beaux ces témoignages de repentance, de conversion. Il faut entendre des choses sur la sainteté. Il faut entendre des prédications sur la consécration, sur le bon combat de la foi. Voilà, pas une église, il n'y aura que l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, beaucoup de divertissement, beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, mais aucun qui combatte le bon combat. Je vous avais raconté une fois que Albi, je me rappelle, Monsieur Roussel, il avait invité une chorale. Il avait invité une chorale, c'était un samedi, et l'église était pleine. Pleine. Alors moi, je m'étais assis à côté de lui, j'étais stagiaire, moi j'étais obéissant, et je m'étais assis à côté de lui, et il faisait une tête, mais triste. Alors au bout de 5 minutes, moi quand même, ça me faisait la peine. Et j'ai dit, Monsieur Bertalon, pourquoi vous avez l'air triste? Il me regarde, il me dit, tu comprendras mardi. Et j'ai compris de suite. Parce que mardi, c'était l'heure de la prière. Et on était 12. J'avais pas besoin d'un grand sermon, j'avais vite compris. J'ai compris quand il me l'a dit. Et c'est vrai que pour faire danser les gens, il y a du monde. Mais pour les faire prier, il y en a beaucoup moins. Et vous voyez, aujourd'hui, le temps a passé, je réalise vraiment. que le Seigneur veut une maison de prière, une maison où on est armé, parce qu'il y a toutes les armes. À nous de les saisir. Vous avez à lutter. On pourrait donner comme titre de la prédication, n'oubliez pas que vous avez à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on ne doit pas lutter contre les gens. Il faut lutter, dire quand vous priez, vous luttez. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de lier, et je veux lier la puissance des ténèbres, et je lis les dominations. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quand vous priez, vous luttez contre les principautés. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous priez, Seigneur, je te prie pour mes enfants, eh bien vous luttez contre les dominations qui veulent empêcher vos enfants. Ce n'est pas parce que vous liez les dominations, les principautés que ça se fait mécaniquement. Quand vous priez, vous combattez le bon combat. Et vous liez ces choses. Et vous savez, dans une église, il n'y aura que l'apparence de la piété. On va quand même revenir sur ce texte. Je ne voulais pas le lire parce que vous le connaissez. Mais quand même, est-ce que vous savez ce qu'est le conseil que Jésus donne après avoir cité l'Église de la fin des temps? Ça fait peur quand même. J'avais écouté deux ou trois prédications de M. Wilkerson, et maintenant je comprends, parce qu'il ne dit pas tout, mais je comprends. Je comprends maintenant. Vous savez, des fois, il y a des hommes de Dieu, ils parlent, on ne comprend pas tout. Mais quand vous connaissez mieux la Bible, vous comprenez ce qu'ils ont voulu dire. 2 Timothée, chapitre 3, il parle des chrétiens des derniers jours. Alors on va le lire, tant pis, on va le lire, je ne voulais pas le lire, mais c'est le plus important quand même. Regardez bien. En plus, Dieu nous a prévenus. De Timothée, chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, ce n'est pas les temps, les derniers jours, donc c'est vraiment la fin, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, alors vous connaissez, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, donc ça prouve que c'est pour les chrétiens, ayant l'apparence de la piété, là ça prouve encore plus que c'est pour les chrétiens, mais reniant ce qui en fait la force, quel est le conseil que Dieu donne? Ça fait peur. Comment? Ouais. Éloigne-toi de ces hommes-là, ou alors écarte-toi, comment tu as dit?
Détourne-toi.
C'est quand même Dieu qui parle, c'est pas Paul, c'est Dieu. Éloigne-toi, détourne-toi de ces gens-là. Comme quoi il faut faire attention aux gens qu'on fréquente. Il faut faire attention aux gens qu'on fréquente. Dans une église où il n'y aura que l'apparence de la piété, eh bien, écoutez, le conseil, il est là, il vient de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Éloigne-toi de ces hommes-là. La repentance, il faut une vraie piété. C'est pour ça, faites attention les jeunes à la musique, faites attention au bruit dans les églises, faites attention à l'atmosphère, à toute cette superficialité. Dimanche, il y en a une ou deux personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi vous avez demandé qu'on arrête d'applaudir ?» Eh bien, parce que s'il y a une âme qui vient pour la première fois, c'est pas la peine qu'on l'embrouille avec du bruit. Il vaut mieux que si une âme vient pour la première fois, elle entende bien les témoignages et bien la parole de Dieu. Vous trouvez ça peut-être dur, mais croyez-moi, on a vite fait de basculer dans l'ambiance. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui fait la force de la piété? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Reniant ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, c'est l'obéissance. C'est la sainteté. C'est une vraie repentance. Hein? Seigneur, ce soir, tu me parles qu'il me faut passer du temps dans la prière. Est-ce que c'est écrit « Je veux que les hommes prient » Est-ce que c'est écrit? Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Eh bien, je veux que tu pries. Voilà. Et si on devrait tout régler là-dessus. Il y a un combat, je vais lutter. Je vais lutter dans la prière. Ça sera un bon combat. Les vacances vont venir. Si vous saviez le nombre de chrétiens qui rétrogradent pendant les vacances. Je me souviens d'un couple qui était ici il y a quelques années. Et je leur ai dit, vous partez en vacances. Ah oui, on part en vacances, on est content de dégager de Toulouse. On ne prend même pas la Bible pendant 2 mois, on va s'éclater. Et je me suis dit, si vous ne prenez pas la Bible, vous allez certainement le regretter. Ils ont rétrogradé. Partir en vacances sans prendre la Bible. Est-ce qu'ils avaient déjà rétrogradé? Oui. Ah ben, oui, ils avaient déjà rétrogradé. Mais, franchement, c'est... Et ils ne s'en rendaient même pas compte. C'est pour vous montrer, ils n'ont pas compris. Dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on aime la prière. Pourquoi? Parce que Jésus veut que l'on prie. Seigneur, donne-moi d'aimer la prière. Après tout, c'est ça l'honnêteté. Mais je n'arrive pas à prier. Eh bien, donne-moi, Seigneur, de prier. Vous croyez que Dieu peut exaucer cette prière? Franchement, vous croyez que c'est une prière? Mais bien sûr que Dieu l'exaucera. Qui c'est qui va gagner? C'est l'ennemi qui va gagner dans ma vie ou c'est le Seigneur Jésus qui va gagner? Vous savez, C'est un principe. Nous avons à lutter. Et le diable, il fera tout, je le répète. Si nous ne prions pas, les gens resteront dans les ténèbres. Si nous ne prions pas, nous empêchons les gens de venir à l'église. Nous empêchons l'œuvre de Dieu de se faire. Nous, on a l'impression que ce n'est pas grave, ma prière, si je ne prie pas, quelqu'un d'autre le fera. Écoutez-moi, quand on ne prie pas, il y a un double péché. Je ne fais pas la volonté de Dieu, mais en même temps, j'empêche l'œuvre de Dieu de se faire. C'est pour ça qu'on doit prier. Le dimanche matin, je vous pose une question. Est-ce que vous vous levez un peu plus tôt pour prier pour les églises? Ou est-ce que vous vous levez toujours à la bourre pour aller au culte? Ouais. Moi, dernièrement, j'étais dans une église. J'ai demandé qui c'est qui a prié pour le pasteur ce matin. Je crois qu'il y a 8 personnes qui ont levé la main sur 200 personnes. J'ai appris à me retenir de pleurer. Je l'ai appris, c'est vrai. Je vous le dis franchement. Est-ce que nous avons un Dieu puissant? Est-ce que nous avons un Dieu grand? Un Dieu qui sauve? Un Dieu qui règne? Et à qui nous écoutons? Qui nous écoutons vraiment? Le Seigneur ou le diable? Bon, monsieur, vous, quand même, ne parlez pas comme ça. Hein. Eh bien, posez-vous la question. Quand on dit, c'est pas grave si je ne prie pas, mais à qui j'obéis? Soyons sérieux. Oh, c'est pas grave, vous n'allez pas nous prendre la tête encore avec ça. Hein. Moi, j'entends des fois des gens. Hein. Oh, puis vous n'êtes pas mon pasteur. Hein, c'est... ouais. J'entends ça. Quand on pense que la consécration ou la sainteté, ce n'est pas important, qui sait à qui on obéit? Soyons sérieux. Ben oui, on obéit au diable. Si je suis archi léger avec ça, croyez-moi, je ne suis pas en train d'obéir au Seigneur. Alors que, et je voulais terminer avec ce verset, dans le psaume 16, vraiment j'y tenais. Parce que quand même, c'est la conclusion. Dans le psaume 16, ce matin, hier soir, je priais. Je me suis dit hier soir, il y avait un match de foot hier soir, vous savez. Et je me suis dit, tiens, tu pourrais en regarder un peu. Et puis je me suis dit, non, tu vas aller dans la présence du Seigneur. Parce que ce verset, il est venu sur mon cœur. Dans le psaume 16, verset 11. Alors je vais vous poser la question, qui le croit ce verset ? Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et hier soir, c'est vrai, j'avais un peu de temps. Je me suis dit, ça vous arrive des fois de regarder ce qu'il y a à la télé, non? Ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive? Bon. Et puis au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Et ce verset s'est imposé, il y a d'abondantes joies devant ta face. Est-ce qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu? C'est peut-être ça qu'il faudrait redemander au Seigneur. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi. Montre-moi quelle est ta volonté. Vous le croyez qu'il y a de la joie? Vous le croyez ça? Ou David était fatigué quand il a écrit ça? Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a quelqu'un qui le croit? Et s'il y a quelqu'un qui le croit, qu'il y a de la joie, il y a des gens qui cherchent la joie. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui peuvent nous faire du bien. Ne soyons pas mystiques. Mais mes frères et sœurs, je peux vous dire que si le diable, il arrive à nous faire oublier ces choses, c'est lui qui a gagné. Il y a des joies dans la présence de Dieu. Il y a un bon combat. Il y a à lutter. Oui, il y a le repos. Alléluia pour le repos. Alléluia pour le combat. Il y a un bon combat. Quand Jésus reviendra, et s'il revenait cet été, trouvera-t-il des hommes, des femmes de foi, des gens qui vont dire, oui, il y a une réunion de prière, j'y vais, le matin, oui, j'ai mon heure, t'es là, j'ai un quart d'heure, je le bloque. Ouais, tout ça, ça plaît à Dieu. Nous avons à lutter. Nous avons une puissance. L'Église, elle est armée. Est-ce que vous le comprenez, ça? Il y a la possibilité de combattre. Qui veut la victoire? Qui veut être un vainqueur? Qui combattra le bon combat? Eh bien, celui qui obéira. Ou alors, on continuera à tourner le dos au combat. Alors, mes frères et sœurs, répondons à cette prédication. Demandons à Dieu qu'il nous aide à gérer notre emploi du temps. On a 24 heures par jour. Il y en a combien pour dormir? Combien vous utilisez d'heures pour dormir? 7 heures. Certains utilisent 6, d'autres 8. Moi, depuis mon AVC, j'en utilise un peu plus qu'avant. Est-ce que ça va m'empêcher de prier? Non. Seigneur, aide-moi à organiser mon temps. Est-ce que Dieu va nous aider? Ben oui. Vous inquiétez pas. Aide-moi, Seigneur. Ouais. Parce que sans la sainteté, qu'est-ce qui est écrit? Personne. Personne. Ça fait quand même réfléchir. Et moi, j'ai envie que dans ma vie, les gens y voient la gloire du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait terminer en demandant à Dieu qu'il nous aide? Soyons vrais. C'est bien de chanter, montre-moi quelle est ta volonté. Mais Seigneur, maintenant, tu vas m'aider. Parce que tu m'as parlé ce soir, je veux être armé. On reste les yeux fermés. Je m'adresse à ceux qui ont vraiment du mal avec la prière. À ceux qui ne sont pas armés. À ceux qui tournent le dos. À ceux qui sont sans casque, sans bouclier, sans ceinture. Oui, vous ne pourrez pas dire à Dieu un jour, Seigneur, tu aurais dû m'armer, parce que les armes, nous les avons. Tous et toutes, nous pouvons tous être armés. Et ces mois à venir, ces mois de congé qui sont des mois catastrophiques dans les églises, moi j'entends souvent des pasteurs qui me disent, je passe tout le mois de septembre à courir après les gens qui ne viennent plus à l'église. Ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'on a tourné le dos au combat. Et vraiment, ou alors il faut arrêter de chanter des cantiques comme celui-ci. Mais moi je crois qu'il y avait quand même des cœurs sincères ce soir. Je crois qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux faire ta volonté. Montre-moi quelle est ta volonté. Et moi je l'ai chanté avec cœur. Je pense qu'on était plusieurs à le chanter avec cœur. Il y a un combat, un bon combat. Il y a un Dieu puissant. Le diable, il est puissant, mais le Dieu que nous servons, il est tout puissant. Il est tout puissant. Vraiment tout puissant. Alors à qui on va obéir? Notre Père, oui, tu nous as laissé ta parole. Et quand tu reviendras, nous voulons que dans nos cœurs, tu trouves une foi vivante. Tu nous as donné la foi. Cette foi, nous voulons qu'elle grandisse, qu'elle se développe. Oui, Seigneur Jésus, nous confessons qu'il y a d'abondante joie devant ta face. Et nous te prions pour tous les chrétiens qui n'expérimentent plus cette grâce, cette joie, cette faveur de se tenir devant ta face. Tu vois tous les chrétiens qui rétrogradent, qui n'ont que l'apparence de la piété. Seigneur, délivre-les, éclaire-les, Seigneur, afin que nous puissions tous, dimanche après dimanche, témoigner dans nos cultes de louanges qu'il y a une joie, une vraie joie, devant la face de notre Père Céleste. Oui, Seigneur, tu nous armes. Oui, tu es tout-puissant. Alors, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons baissé les bras. Pardon pour toutes les fois où nous avons oublié de demander au Aaron et au Hur de nous soutenir. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons négligé, où nous avons fait comme la tribu d'Éphraïm, où nous avons tourné le dos le jour du combat. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Garde-nous les yeux fixés sur toi et que ta volonté soit faite comme nous te l'avons demandé au travers de ce chant. Merci Seigneur Jésus. Amen.